Est-ce qu'en auto, les Japonais peuvent jouer du synthé?
Synthé-million? Non, c'est pas ça.
Mais non, des pianos!
Synthé-teaser!
Ah, je pensais à saté, moi. Mais...
Ah, saté, oui, au Japon, c'est plutôt le
Ah non,
saté.
c'est plutôt le saké, comme dit.
Synthé-teaser. Ça, c'est du teaser, en effet. Ouais.
Bien joué! Bonjour Emman, bonjour Medbel, bonjour Doudou!
Salut tout le monde.
Bonjour Cécile.
Et bonjour les auditeurs, bienvenue dans Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Et aujourd'hui, le sujet du jour, ça parle japonais, Medbel?
Oui, alors il y a quelques années, on avait parlé d'MSX. Notamment, vous aviez parlé, et moi j'étais pas encore là. Mais ici, on va se rattraper avec un MSX qui sort de l'ordinaire, puisque c'est le fameux MSX Yamaha avec synthé.
Waouh!
Chouette.
Eh bien, j'ai hâte d'écouter ça. Mais avant, un peu d'actu?
Ouais.
Disparition de Sir Charles-Anthony Richard Hoare, à 92 ans, inventeur notamment de l'algorithme Quicksort, récipiendaire du Turing Award. Il a aussi dirigé l'équipe qui a produit le compilateur Algol 60 pour l'Elliott 503. Et c'est lui qui a inventé le pointeur nul, l'erreur aux milliards de dollars, comme il l'a appelé par la suite.
Petite victoire sur Chat Control. Les eurodéputés mettent fin à la surveillance de masse indiscriminée. Le Parlement européen a donc bloqué la surveillance non ciblée des applications de messagerie qui auraient
C'est ton
simplement
téléphone qui te
détruit
surveille là.
le secret des correspondances. Mais il faut rester vigilant. Je crois que Chat Control n'aime pas qu'on gagne une petite victoire.
Les recherches comment installer Linux atteignent un record historique sur Google. Selon Google Trends de février 2026, le volume de recherche mondial ayant été multiplié par 5 ces derniers mois, de plus en plus d'utilisateurs de Windows explorent des alternatives, motivés par l'arrêt du support Windows 10 par Microsoft, les exigences matérielles restrictives pour Windows 11 et l'insatisfaction grandissante face à l'intégration agressive de l'IA par l'entreprise dans son OS phare.
Microsoft présente une technique de stockage dans le verre qui durerait 10 000 ans. Ça pose plusieurs questions. Déjà, qu'est-ce qui mérite vraiment d'être conservé 10 000 ans? Est-ce que l'humanité sera encore là? Ou encore, aura-t-on les outils pour lire ça? Il ne suffit pas d'une aiguille et d'un tour d'un potier.
J'ai perdu.
Déjà, les soucis de câble. L'Open Source Endowment, premier fonds de dotation pour la pérennité du logiciel libre. Alors que le financement de l'Open Source ressemble depuis des années à une quête de bonne volonté et qu'il est bientôt grignoté par l'IA, un fonds de dotation veut changer la donne. Il a déjà réuni environ 700 000 dollars auprès de plus de 60 donateurs fondateurs. On croise les doigts.
Et enfin, la Pico GX tant attendue est arrivée. Les
Ah.
aficionados de l'Amstrad Plus, dont celui qui est au studio, vont enfin pouvoir s'équiper en cartouches numériques type Everdrive pour leur machine chérie. Depuis l'arrêt de la production du C4 CPC, C4 CPC, ah oui, au moment où la machine regagnait de l'intérêt, les possesseurs de plus n'avaient que peu de solutions pour s'équiper en cartouches virtuelles. C'est corrigé et à prix abordable. Merci, Rodrigue.
Ah, mais c'est Rodrigue Studio,
Et oui,
d'accord.
pour les infos, ça se passe sur le Discord de Rodrigue et bientôt en boutique.
Chouette.
Eh bien, c'est tout pour l'actu. Écoutons une petite chiptune et on se retrouve tout de suite pour notre sujet du jour avec le synthé Yamaha MSX. CMXX.
Gravity Road.
Il s'agissait de Bishop de Wayland Corp, Crap Team, une musique sur Amiga, hein, qui a été récompensée troisième pour une démo à l'Ami Party 35. Et la musique est de Dacty.
Alors là, on dirait carrément qu'on a une télé analogique qui reçoit de la neige. Là. Je ne sais pas ce qui
c'est
se passe
ça.
Au studio.
Mais oui.
Il va falloir trouver, hein, parce que ça va être attention.
Pour nos auditeurs, vous êtes toujours sur Nerdcore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Bienvenue. Eh bien, nous allons écouter le sujet de Medbel, à savoir le Yamaha CX5M.
Oui, c'est un synthétiseur FM plus un ordinateur. Si on pense à la synthèse sonore des années 80, on pense souvent au synthétiseur FM, voire le fameux Yamaha DX7 en particulier. La domination de Yamaha sur le marché des synthétiseurs a engendré une multitude d'instruments dérivés et de produits complémentaires, destinés à rendre la magie des DX7 accessible à un plus large public. Des classiques comme le DX100 ou le DX81Z comptent parmi les appareils les plus connus ayant succédé au DX7. Mais saviez-vous que Yamaha a également intégré un synthétiseur FM à un ordinateur? C'est précisément ce qu'a fait Yamaha avec le CX5M, un ordinateur MSX doté d'un synthétiseur FM intégré d'entrée et sortie MIDI, bien sûr. Il pouvait facilement s'interfacer avec le DX7 pour un contrôle et une organisation avancée des sons grâce à une interface graphique. Mais le CX5M avait le potentiel d'un instrument redoutable à part entière, même si notre conception collective de ce qu'un ordinateur et ses possibilités a beaucoup évolué ces 40 dernières années, vous serez peut-être surpris de constater à quel point les fonctionnalités du CX5M, du moins en ce qui concerne ses fonctions musicales, sont similaires à celles des machines modernes. Je trouve que le CX5M est un peu comme une capsule temporelle analogique avec l'équipement adéquat. Il est bien sûr encore parfait fonctionnel, mais son interface utilisateur et sa puissance le distinguent nettement des ordinateurs et logiciels actuels. Il est toutefois intéressant de se pencher sur un appareil comme celui-ci et l'apprécier parce qu'il offrait à l'époque de sa sortie tout en se réjouissant des progrès technologiques réalisés depuis. Alors, suite au succès du fulgurant DX7, Yamaha est devenu un acteur incontournable. Le synthèse FM est produit un vaste catalogue d'instruments numériques et d'accessoires en quelques années seulement. Cette expansion visait en particulier à répondre à l'incroyable demande pour le DX7 et en partie à simplifier la paramétrisation complexe de ces instruments. Mais elle a également permis à Yamaha d'explorer de nouvelles pistes en dehors de son produit phare. Pour faciliter le développement rapide de tels produits, il est important de prendre en compte l'étendue des capacités de production de Yamaha. Outre les synthétiseurs, Yamaha fabrique une incroyable variété de produits, des instruments de musique, guitare, instruments à vent, etc. Mais aussi des divisions spécialisées dans la fabrication de motos, de développement, de semi-conducteurs et de produits électroniques à grand public pour l'audio et la vidéo, y compris les ordinateurs antérieurs au CX5M. Face à ce besoin et intérêt diversifié, Yamaha a dû informer les tendances et les évolutions dans le vaste domaine de l'électronique et des technologies. Synthétiseurs comme le DX7 ne représentaient qu'une petite partie de l'adoption croissante des technologies numériques. Au Japon, pays d'origine du Yamaha, le MSX s'imposait comme la plateforme informatique domestique des prédilections des consommateurs et développeurs. Lancé en 1983, à la sortie du Yamaha DX7, le MSX faisait fruit d'une collaboration entre ASCII Incorporation et Microsoft, une version étendue du langage du programme BASIC, intégrée dans la ROM de l'ordinateur. Grâce aux ajouts apportés au langage BASIC, le matériel des ordinateurs MSX pouvait charger de nombreux perforés, cartouches et ROM, offrant une large éventail de possibilités de création graphique, de lecteurs de musique. Les entreprises japonaises voyageaient dans l'ordinateur personnel, un nouveau marché prometteur à explorer. Si c'était impatiemment dit permettait pour Yamaha, en particulier avec l'extensibilité de la plateforme MSX, correspondait parfaitement à sa gamme croissante de synthétiseurs numériques, notamment suite à son implication dans le développement et l'introduction du MIDI. Aux États-Unis, le MSX fut cependant éclipsé par la popularité du Commodore 64. et les autres fabricants peinèrent à introduire les ordinateurs personnels auprès des consommateurs américains. Lorsqu'ils osèrent de tenter l'expérience, sans un marketing aussi agressif que son périphérique complément du DX7, il est difficile de dire si le CX5M n'a jamais vu le jour sur le marché américain. Mais comme nous le verrons, le 5XM possède des caractéristiques à la fois comme instrument de musique autonome et comme outil de configuration pour le DX7, ce qui en fait un point de référence fascinant à la croisée des technologies musicales et informatiques. Au-delà de la simple volonté de s'implanter sur le marché émergent des ordinateurs personnels, Yamaha souhaitait développer une plateforme compatible avec son catalogue croissant des DX, notamment le fameux DX7 surtout. Cependant, conscient du potentiel d'un ordinateur et d'un instrument à part entière, et peut-être pour stimuler les ventes aussi, Yamaha a décidé de développer un module de son dédié au CX5. Pour les consommateurs, c'est un atout majeur. Il n'était plus nécessaire de posséder déjà un synthétiseur pour commencer à composer avec le CX5M. Tout au long de son cycle de vie, Yamaha a principalement proposé deux modules sonores différents intégrés ses puces sonores propriétaires, le FSG1 et le FSG05. Offrait des capacités de synthèse identiques en tant que synthétiseur à 8 voix et 4 opérateurs. Plus simple que l'architecture des opérateurs du DX7 qui font 6 opérateurs, mais suffisant pour créer des textures et timbres riches. Ces modules présentés sous forme de cartouches MSX insérées dans la partie inférieure du CX5M ou d'un autre ordinateur MSX. Et disposant de divers ports pour connecter des périphériques MIDI des instruments. L'audio est disponible via la connexion à l'arrière pour un écran ou un téléviseur. Mais les modules SFG offrent également des sorties audio directes pour un monitoring plus précis et un enregistrement externe. Tout ça dans les années 80. Pour compléter les modules sonores FFG, Yamaha a développé des claviers maîtres de type piano. Pour le CXM, il y a le YK1, modèle plus abordable et doté de mini-touches, tandis que le YK10 taille standard est une construction plus robuste. Ces claviers n'étaient pas des contrôleurs MIDI proprement à parler, mais en se connectant au CXM via un câble et un port spécifique sur le port du côté, en raison des limitations de la mémoire ROM, le module sonore FFG01 était assez limité et ses ports MIDI ne pouvaient être connectés qu'à un DX7 pour la configuration. Donc, à ce temps-là, c'était propriétaire. Le FG05 nécessitait l'un de ses claviers maîtres, le YK, pour accéder à son moteur sonore. En revanche, le FG05, version améliorée, pouvait contrôler les instruments externes grâce à son clavier et recevoir des données MIDI provenant des sources externes, offrant ainsi une bien plus grande flexibilité. Lorsque le CXM est allumé, une cartouche dans son emplacement et démarre systématiquement sur l'écran du commande basique. Cependant, en exécutant la commande Call Music, vous pouvez accéder à la ROM interne du module SFG connecté et utiliser le synthé. Alors, le SFG disposant d'une ROM beaucoup plus petite, son interface était plutôt rudimentaire. En revanche, le 05, plus récent, était une interface graphique bien plus intuitive, avec notamment un affichage des notes rappelant un piano et des paramètres clairement organisés. Le CXSM avait été équipé du 05. Les images donc, qui étaient sur la boîte et, montraient les deux. Quoi. Une fois la ROM chargée, jouer des touches et le contrôle YK ou un périphérique MIDI externe connecté déclenchait des sons. Vous pourrez alors explorer divers réglages internes. Côté ergonomie, ce mode était assez généraliste et offrait peu de possibilités d'édition de paramètres. Impossible d'approfondir la programmation FM, mais certains réglages comme le portemanteau, les transpositions, l'accordage étaient disponibles. Cependant, pour un néophyte en musique ou synthé dans les années 80, il constituait sans doute un excellent point de départ et plusieurs fonctionnalités étaient utiles pour la pratique personnelle et le plaisir de jouer chez soi. Donc, c'est les premiers home studios dans les années 80 avec MSX. Toutes les versions du CXCR étaient livrées à 48 sons pré-réglés. Mais le F05, sorti ultérieurement, offrait des bandes de sons supplémentaires programmables avec différentes ROM. Alors, il y avait un petit hacking puisqu'il y avait en réalité deux versions de ROM. Il y a eu la 1.0 qui était l'original et puis un peu plus tard, sous le manteau, il y avait une 0.2 et comme était la 0.2, on avait le 0.5 pour le prix du 0. Vous avez compris quoi. La polyvalence ainsi que les sons du Zen incluant une large éventail d'instruments, des pianos, des orgues, des cuivres et bois. Et des effets spéciaux. Ça, c'était pas mal. Avec surtout les différents thèmes, ainsi de suite. Ça, c'était pas mal. Différents modes de jeu étaient disponibles, permettant au module FSG de jouer des sons en monophonique ou polyphonique. Les modules sonores FSG prenaient en charge la multitrimbalité, ce qui signifie qu'il était possible de, non seulement de jouer plusieurs notes et voix polyphoniques en même temps, mais aussi d'assigner des voix à des sons distincts. Ainsi, le mode polyphonique permet d'assigner des canaux MIDI à quatre couches différentes, offrant de nombreuses possibilités d'exploitation multitimbrale. Le mode monophonique permet de mélanger deux sons et propose une option d'accompagnement automatique avec une petite sélection de REP de batterie et d'accompagnement pour improviser. Grâce à l'enregistreur et boucle intégrée, il était facile d'enregistrer une idée et d'entendre jouer par le CX5M. L'expérience fascinante au milieu des années 80. Donc, c'est-à-dire, c'est les premiers loops MIDI. Alors, et ça, ça a été repris dans les années 2000. Hein, donc, ça, c'est la preuve que ça marche bien. Dans les mesures de possibilité, nous introduirons des images des enregistrements audio des différents programmes de cartouches pour donner une idée de l'utilisation d'un ROM. Il faut garder à l'esprit que nous sommes aujourd'hui très exigeants des écrans haute résolution, OLED, net et les méthodes généralement plus sophistiquées de graphisme d'interface. Cela dit, il est assez intéressant de se replonger 40 ans en arrière. Matériel ou logiciel de composition musicale moderne et au rouleau de piano, des stations audio numériques comme les DAW, la cartouche YM101 FM Music composée est un programme de composition musicale novateur. Alors, dans les premiers modèles, elle n'était pas fournie et après, bon, Yamaha, il s'est dit, ah bon, ok, on la donne avec. Tirant parti des capacités polyphoniques et multitimbrales, des modules SFG était possible de créer des compositions à plusieurs voix et d'apprécier toute la puissance du CX5. Bien que ce programme ait peut-être moins bien vieilli que d'autres en termes d'ergonomie, il reste un élément important de la bibliothèque ROM MSX. De nos jours, on se contente généralement d'écrire les notes dans l'éditeur de piano de son séquenceur et d'utiliser des clips MIDI ou de se tourner vers une application comme Final ou Sibelius pour obtenir une notation musicale traditionnelle. Mais il y a quelque chose de particulier à découvrir, un instrument tel qu'il était à sa sortie. Le programme FM Music Composer est le meilleur moyen d'y parvenir. Si la ROM interne du CXL ne répondait pas à vos besoins de personnalisation, la cartouche, elle, contient tout ce qu'il manquait. Baptisé FM Voicing Program, cette ROM est idéale pour les passionnés de conception sonore et offre des informations essentielles sur le fonctionnement du synthé du module SFG. Donc, c'est grâce à ces cartouches qu'on dépassait les fameux 42. Et en plus, notamment, il y avait donc dans la fameuse ROM qui transformait le 01 en 05, il y avait une cinquantaine de sons cachés qui ont été découverts dans les années 90. Mais bon, ça a été un peu plus tard avec un hacking. Vous trouverez des présentations plus complètes des systèmes et d'autres articles. Mais voici quelques points techniques essentiels pour l'utilisation des synthétiseurs. Il y avait un bloc, mais bon, il a disparu. Chacun des 8 voix dispose de 4 opérateurs comparables en langage FM. un oscillateur et sur d'autres types de synthétiseurs. La principale différence réside dans le fait qu'un opérateur n'est pas seulement un oscillateur, mais possède également une enveloppe d'amplitude. Celle-ci détermine la part du signal d'oscillateur directement audible ou utilisée pour moduler un autre opérateur. Différentes combinaisons d'opérateurs sont appelées algorithmes et chacune peut produire des timbres sonores uniques pour un patch donné. Bien que l'interface utilisateur ne soit pas aussi sophistiquée que le synthétiseur FM moderne, qu'il soit matériel ou logiciel, vous aurez accès à la quasi-totalité des paramètres pour le module SFG. La navigation s'effectue à l'aide de touches fléchées et des paramètres se modifient également aux touches numériques. Donc, donc les touches numériques, c'était bien sûr, il n'y avait pas de pavé numérique. Donc, c'était au-dessus, comme c'était un clavier QWERTY, c'était en contact direct. Si vous avez, bien entendu, le nombre de valeurs correspond directement à des unités musicales, comme les Hertz, les secondes, mais plutôt à des données de référence stockées dans des tables de consultation au sein des puces FM. De ce fait, la précision n'attendait pas celle des instruments modernes, mais la palette sonore reste suffisamment large pour permettre une grande flexibilité d'interprétation. Si vous avez utilisé un autre utilisateur FM à 4 opérateurs de Yamaha à cette époque, comme le DX21, le DX87 ou le DX11, oui, il y en a des DX, oui. vous remarquerez probablement de nombreuses similitudes dans son fonctionnement et sa sonorité. Par exemple, la plage de valeurs utilisée pour des paramètres tels que le réglage du LFO. La sélection de l'algorithme, le désaccordage, correspond au même fonctionnement sur d'autres appareils, notamment pour faire des glitches. De même, vous constaterez que les paramètres d'attaque et la décroissance de relâchement des enveloppes sont inversés par rapport à la plupart des autres synthétiseurs. Leurs durées les plus courtes sont disponibles au réglage maximum de 31, donc ce qui était proche du DX11. Il est intéressant de noter que ce programme permet d'accéder au firmware interne du module SFG, c'est là où c'est intéressant. Avec le SFG 05, vous pouvez ainsi basculer vers la banque de son utilisateur créé avec le programme et profiter de vos propres sons personnalisés. Vous pouvez ensuite les superposer facilement à des patchs multi-timbres. Donc, il y avait une sorte, bon, c'est pas réellement un vrai, mais il y avait déjà un début de multicouche. Et ça, c'est très rare. Et surtout, c'est un ordinateur qui revenait à maximum, le tout complet, 200 euros. Donc, c'est pas énorme.
C'est pas cher.
Non. Il est fort probable que cette cartouche ait été argumentée marketing majeur pour le CX. Le DX7 a connu un tel succès auprès des musiciens professionnels que la possibilité de développer et de programmer plus facilement des sons étant donné très recherché. Mais toutes les fonctionnalités du DX7 s'est rapidement forgé la réputation d'être quelque peu fastidieux à programmer, décourageant de nombreux utilisateurs de s'aventurer au-delà de très bons pré-réglages d'usine. C'est pourquoi le DX7 Voicing Programme offrait une alternative visuelle à l'interface de la programmation par bouton et curseur. Donc, grâce au MSX, on pouvait rentrer dans le DX7. Et ça fait une grosse révolution dans les studios d'enregistrement.
Ah bah oui, c'est hyper précieux. La personnalisation devait être ultime.
Ah oui, surtout si on travaillait avec 6 opérateurs qui n'étaient pas 4. Et là, le logiciel MFLAC a acheté le 05 et grâce au commandé, au cache et en passant à la ROM 2.0, on avait absolument tous les réglages du DX7. Donc c'était le top. À l'instar du programme FM Voicing, celui du DX Voicing présentait des interfaces à dominante Cyan, mais des dispositions et des paramètres disponibles soient évidemment très différents. Ce programme facilite également l'organisation des sons en banque de programmes et leur stockage sur cassette. Bien sûr que les nombreux logiciels de gestion de son, les cartouches de pré-réglage modernes comme le HD1507 d'Hypersynth et même les programmateurs matériels tels que le DT07 Datatronics. Et aujourd'hui, plus facile que jamais de créer des sons pour un DX7. Cependant, comme le programme FM Basic Composer était intéressant d'utiliser le CX5M de la manière la plus authentique possible si cela vous intéresse. Il va de soi que les capacités du CDX5M ont été largement surpassées par des ordinateurs, tablettes et même smartphones présents, et font toutefois reconnaître à Yamaha le mérite d'avoir imaginé un écosystème complet d'instruments et de produits de musique électronique, et de s'être efforcé d'explorer les possibilités offertes par une technologie alors de pointe. Aujourd'hui encore, il est fascinant de se replonger dans le CX5M et d'apprécier ce qu'il pouvait faire à sa sortie et de constater les progrès considérables réalisés depuis dans le domaine informatique.
Eh bien oui, là pour le coup, c'était...
On en trouve sur le bon coin ?
Oui, il y en a encore. Des Yamaha, même le MSX Yamaha a été plus produit, surtout a fortement marché en Europe, notamment Allemagne, aussi, en Angleterre, aussi même, il y a même en Roumanie, enfin dans les pays de l'Est, il y en avait pas mal. Donc c'était c'est pas forcément Russie, sans doute, puisque MSX japonais, Russie, c'était pas vraiment top. Et sinon, c'est le MSX, c'est un des MSX qui a marché le mieux.
Ok, bah, cool. Ça donne envie d'écouter un petit peu ce que ça peut donner.
Et bien justement, on va écouter une petite démo que nous a fait Medbel avec cet instrument.
Ordinature.
Et bien c'est parti.
Il s'agissait de musique d'illustration que Medbel nous a produite avec le CX5M et le Yamaha DX... Non, MS... Non, Vas-y.
Non, c'est simplement le MSX, donc YCM aux quatre opérateurs, quoi. Avec la cartouche S05 qui ajoutait 4 voix, quoi. Donc au total, j'avais 8 voix.
Sympa. Okay.
Bon, sur l'Argus, hein, dans Audiophosine, on trouve la machine à un Argus de 293 euros aujourd'hui.
Elle est un peu plus chère. Moi, je l'avais payé, donc j'ai regardé le prix, parce que c'était en francs belges, et j'avais pour environ 200 euros, quoi, en gros. C'était 8000 francs belges, et bon, en arrondissant, ça fait 200 euros.
Ouais, voilà, mais ça reste un peu cher quand même pour. Mais voilà.
Ah, après... mais t'avais l'ordinateur, le petit clavier, oui. La cartouche. Ouais. Et oui, donc c'était pour. Non, c'était pas cher. Parce que il y avait un synthétiseur.
Ah oui, je vois.
Pour les frais. Or que, par exemple, le Goldstar, ça, je l'ai payé 100 euros. Quoi.
D'accord, oui. Donc, c'était plus raisonnable, effectivement. Eh bien, super. Merci, Maître Bell, pour cette belle découverte de la MAO des années 80, du coup.
Et oui.
On passe à l'agenda ?
Eh bien, oui, on passe à l'agenda.
Eh bien, on a... Alors, Festival d'un jour. Depuis plus de 30 ans, il fait découvrir les auteurs de cinéma d'animation. Permet la rencontre entre le public et ses créateurs, diffuse des œuvres de qualité, il lève le voile sur les secrets de fabrication de grandes références du cinéma d'animation, tout en faisant écho au pôle de l'image animée par la cartoucherie. Cette grande fête du cinéma d'animation revient du 23 au 28 mars, ça fait plus d'un jour mais ça fait un moment que c'est comme ça, avec des programmes pour tous, donc la grande diversité de cet art permet aux enfants, aux jeunes et aux adultes, aux néophytes et aux fans d'animation de trouver tous les ingrédients d'une goûteuse découverte. Depuis donc de nombreuses années, le Conservatoire est un partenaire privilégié du festival. Musique d'un jour est l'occasion de découvrir ou redécouvrir des œuvres de cinéma d'animation remises en musique, réinventées par les élèves et les étudiants du département musique à l'image lors d'un ciné-concert familial. Alors c'est gratuit après adhésion, sur inscription. Alors deux dates, mercredi 25 mars à 18h30 au Théâtre de la Ville de Valence et samedi 28 mars, 10h30 à l'Auditorium, la Cité de la Musique à Romans.
Atelier Libérer le numérique avec G3L, c'est le samedi 28 mars, 14h30 à 16h, à la salle Charles Michel, place Marcel Armand, à Romans-sur-Isère.
Initiation à destination des animateurs et animatrices qui souhaitent créer des nouvelles animations jeunesse. C'est au 8 Fab Lab, ça ? En s'appuyant sur l'esprit maker, à destination des personnes en animation avec des jeunes, donc plus de 8 ans, avec plusieurs objectifs, donc découvrir le mouvement des makers et des Fab Labs, développer l'esprit critique par la compréhension des nouvelles technologies, développer la créativité et le travail en groupe, sensibiliser au recyclage, maîtriser l'utilisation du petit outillage et la pratique de la soudure à l'étain, tout ça, comprendre le fonctionnement des composants électroniques simples, découvrir la programmation informatique simplifiée avec Scratch, comprendre la notion de conductivité par la prise en main de l'outil Maki, c'est sympa, ça, on peut faire de la musique aussi. Donc c'est sur 2 jours, donc le premier jour... 30 mars, apprentissage de la soudure à l'étain, fabrication d'objets à partir de composants électriques simples et d'objets recyclés, projet perso, et une deuxième jour sur la culture maker, atelier de découverte et conductivité électrique par le jeu avec le Maki, Scratch et tout ça. C'est sur inscription au 8 Fab Lab, 8 rue Courcomer à Cré.
Et enfin, voilà. Quand t'as fait, tu l'éteins.
Et voilà.
Et voilà.
Et sinon, tu le dessoudes.
Des liens, on met
toujours, en parlant de liens, on met toujours les liens vers les, même pour l'agenda, on met les liens sur underscore.radio.fm.
Tout à fait. Et voilà. Faisons le lien avec tes liens.
Et du coup, j'ai trouvé d'autres liens aussi. Donc, des 0 et des 1, c'est une nouvelle chronique d'autodéfense numérique qui démarre avec l'AI, l'Association pour un Internet Libre Androme. Diffusé sur Radio Saint-Féréol, à Cré, donc c'est les voisins. Voilà, il y a déjà 2 épisodes à écouter. Le pavé numérique prépare le papier numérique, une déclinaison sous forme de revue. Vous pouvez participer au financement avec la campagne de précommande qui commence bientôt. Et papier toujours, le livre de Geoffrey Dorn, qu'on avait déjà interviewé, Y2Kidgen.exe, Art, Hack et Résistance, est disponible sur son site pour une 20aine d'euros. C'est un hommage aux Kidgens des années 90-2000, donc ces outils pour déverrouiller des logiciels, voilà, avec les visuels un peu similaires au Cracktro. Donc pareil, les gens étaient fiers de ce qu'ils avaient fait, donc ils le mettaient en scène, quoi.
Comme quoi, hein.
Voilà.
Astrologique, frottons cette boule.
Alors, il paraît que l'inventeur du GROP a toujours été jusqu'au boutiste.
Il s'agissait du libriste. Technobéa, ouais. Suite à une mise hors service, le département sera nommé Calvados. On a dit avec modération les paquets.
Nerd, si vous rêvez, rappelez-vous que les deux, ça n'existe pas.
Mais non, Bender, tu sais bien qu'il n'y a que des 0 et des 1. DevOps. Ah,
DevOps. C'est le développeur en mousseur qui s'élance et rate la pâte du soir. Il fait des commits en douceur pour redéployer mes savoirs. La petite moulinette qui s'emballe et qui s'arrête. C'est le shell script qui revient le soir où t'as trop bu de vin. Eh oui, non, mais elle est bien.
Oui.
Ah, oui. Ah bah voilà, mais... vas-y, tiens, musicien, c'est
ouais.
Sympa ça.
Musicien, ah ouais, ouais, ça, je m'en doutais, mais j'y pensais fortement, mais ouais. Ouais, on va le faire, oui. Hein.
Allez.
Yamaha.
Ouais, super.
Bien. Électronicien, le jack est TSR, TRS. Elle s'appelle Thérèse ? Non, TRS.
Ah oui. Ça veut dire tip ring sleeve, donc en fait c'est pour décrire la forme du jack.
Oui,
mais,
et voilà. Comme je suis dyslexique,
mais c'est vrai
j'ai
que
lu...
prononce vite en plus. C'est, voilà.
J'ai lu l'inverse.
C'était dans les années 80 avec le TRS 80.
Voilà. c'est autre chose, mais.
Ouais. Ah oui, ben, bah, eh bien, oui, mais on arrive à la fin et ça m'intéresse.
Ah déjà.
Eh oui, déjà.
Donc vous nous avez écoutés bah, sur Radio Méga.
Ouais. Ou Fréquence Mutine, ou Radio Cactus, ou.
Radio Westrack aussi.
Ouais, Westrack et aussi à Radio Primitive. À Reims,
voilà.
Qu'on salue aussi.
Va falloir qu'on remette la liste parce qu'on a enlevé la liste des pads et en fait, je crois qu'on l'oublie.
Oui, ça fait du monde. Ouais. En tout cas, notre blog est disponible sur underscore.radio.fm avec tous nos liens. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Ouais.
Un peu à l'ancienne.
Ah.
Ouais.
Ah, j'ai du rétro.
Ouais, du rétro. J'ai ressorti un vieux livre.
Ah ouais.
Du placard. Uh-huh. Et on en reparle la semaine prochaine.
Spoilers.
Salut.
Ciao.
Salut.
Bye bye.
Bonjour Yuan, bonjour Nathalie, bonjour Flo.